juillet. Nous allons donc considérer la deuxième épître aux Corinthiens et ce sera dans ces moments le chapitre premier. Vous avez lu ce chapitre et vous avez remarqué qu'il s'agit de la seconde lettre de Paul à l'église de Corinthe, et pendant toute cette semaine, c'est cette seconde lettre qui va former la toile de fond de nos méditations matinales, non seulement cette semaine, mais celle qui suivra. En 1975, nous avions étudié la première lettre de Paul aux Corinthiens, sous le thème général « Soyez des hommes », texte que nous trouvons au chapitre 16 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au verset 13. « Soyez des hommes ». Et pour pouvoir couvrir toute l'épître en 15 journées, nous avions étudié chaque matin un chapitre en nous divisant alors en 5 ateliers, chaque atelier devant répondre à une question sur le même chapitre. Il y avait donc 5 questions différentes dans les groupes. Et le soir, nous apportions à tout le groupe un message spirituel sur le chapitre suivant. C'était notre seul moyen de couvrir toutes les titres qui comprenaient donc 16 chapitres. Ainsi, nous avions pu prendre connaissance de l'essentiel de cette première lettre. Bien, dans ce 14e camp, Mahanaïm, nous allons procéder d'une manière un peu différente, mais nous l'espérons, elle sera aussi efficace et vivante pour chacun de nous et nous marquera de ce nom de Jésus. Nous aborderons notre étude en excluant dès ce matin tout ce qui pourrait être artificiel. Et ce n'est qu'à la fin de la lecture du chapitre premier que nous chercherons à répondre brièvement à la question qui vous a été posée aujourd'hui. Comment discerner si une prédication vient de Dieu aujourd'hui? Voici donc en face de cette seconde épître. On vous a mis une Bible entre les mains, et puis, sans peut-être savoir pourquoi, vous l'avez ouverte là, et vous commencez votre lecture. Est-ce que vous allez fermer votre Bible en disant, bah, seconde épître, il y en a donc une première, qu'est-ce que je devrais faire d'abord? Lire la première, mais jusqu'à ce que j'ai le temps de lire la première, c'est mieux de ne pas lire la seconde maintenant. Quand j'aurai un moment, je lirai la première, puis après on aura l'occasion de lire la seconde. C'est un piège, peut-être. Alors, ce matin, nous allons simplement nous souvenir d'une parole de Jésus qui disait à ses disciples au chapitre 11 de Matthieu. Il faisait d'abord une réflexion à son père, verset 25. Jésus prend la parole et dit, parlant de ses disciples, « Je te loue, Père, ce
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Nous n'allons pas nous considérer d'abord comme des sages et des intelligents. Parce que si nous nous considérons tout de suite comme des sages et des intelligents, qu'est-ce que nous ferons? Nous attendrons d'avoir lu la première épître. Mais nous allons nous conduire comme des enfants. On vient de lire ce chapitre et nous allons essayer de comprendre déjà ce que nous trouvons aujourd'hui dans ce chapitre. Le 26 de Matthieu, toujours chapitre 11, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, pour nous aider, cette merveilleuse parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quelqu'un a dit que dans leur groupe, ça avait été peut-être un peu lourd. Et il attribuait la chose à un fait qui m'a aussi un peu surpris, c'est que dans ce groupe, il n'y avait aucune femme. Je ne sais pas si les femmes sont plus légères, mais dans ce groupe que nous n'avions pas formé nous-mêmes, c'est chacun qui s'est inscrit, il y avait paraît-il que des hommes. Est-ce que vous avez eu un groupe où il n'y avait que des femmes? Alors c'était très léger votre étude? Mais on verra, c'est à nous qui vous mettons dans les groupes. Nous verrons ce que le Seigneur fera. Mais en tout cas, il dit qu'il vous donnera du repos. Puis verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau. Et je prends encore un autre texte qui est l'introduction de notre étude au psaume 119e, une autre promesse justement pour ceux qui ouvriraient la Bible à cette page des Corinthiens et qui se disent ben, « Moi je m'en vais dire si haut. » Prenez encore le psaume 119, qui vous montrera qu'il est question pour nous de prendre goût à l'écriture à quelques pages que nous ouvrions l'écriture. Il ne faut pas se dire j'ai ouvert à la mauvaise page. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence. Ouais. Ils n'ont pas commencé avec une sagesse humaine qui nous conduirait peut-être à faire d'abord la lecture de toutes ces deuxièmes épîtres ou la lecture de la première épître ou aussi la lecture des actes des apôtres. Pour comprendre à la fois, il faudrait aussi lire le livre des actes des apôtres, et puis il faudrait lire aussi les épîtres à Timothée, et on ne saurait plus par quel bout commencer. nous l'exhortation de la parole, et Darby a traduit ce verset 130 du psaume 119, l'entrée de tes paroles est claire. Là où vous entrez, va continuer. La révélation de Dieu. Que soit la page que nous lisions, nous devons croire que cela, parole de Dieu. Et que là, il y a déjà une entrée. Et l'entrée de ces paroles est claire et parole qui va nous donner l'intelligence et la sagesse. C'est comme si vous voulez apprendre à nager. Vous dites, quand je saurai nager, je me jetterai à l'eau. Vous ne vous jetterez jamais à l'eau. Pour pouvoir nager, dans le vide. Eh bien, aujourd'hui, nous voudrions que vous soyez convaincus qu'on peut commencer la lecture de cet épître sans même avoir la connaissance de ce titre. On ne pourra pas ignorer qu'il y a eu une première lettre. Et cela vous donnera le désir de lire vous-même, mais volontairement, cette première lettre. Alors, Paul. Maintenant, qui est Paul? Nous avons d'abord la signature, Paul. Que savons-nous sur Paul? Ou faudrait-il aller chercher quelque chose sur Paul dans les Actes des Apôtres? Et nous saurions que ce Paul n'a pas toujours été l'apôtre, qu'il était un persécuteur des chrétiens. Ça, c'est la lecture de la Bible qui vous amène à vouloir vous renseigner sur Paul. Quand vous recevez une lettre, vous regardez qui vous l'adresse d'abord. Mais habituellement, dans aussi une entête habituellement dans nos lettres, avant qu'on mette notre signature. Mais là, nous savons qui est l'auteur, c'est Paul. Alors, est-ce que nous le connaissons? Le premier évêque est apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, être un apôtre? Parce que justement, au cours de cet épître, on va voir qu'il doit défendre ce titre d'apôtre. Qu'est-ce que c'était qu'un apôtre? Que veut dire apôtre? Bien sûr, vous pouvez prendre un dictionnaire, mais vous n'avez peut-être pas encore de dictionnaire. Mais si vous avez une Bible, cette Bible peut être mieux que le dictionnaire. Qu'est-ce que parler d'apôtre? Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? Non. C'est dans les évangiles. Alors il nous faudrait trouver dans les évangiles. Est-ce qu'il y a dans les évangiles un texte où on serait éclairé sur ce mot apôtre? Alors vous prenez-le. Vous vous souviendrez que Jésus était entouré de beaucoup de disciples, beaucoup d'élèves, et qui voulaient être enseignés par lui. Et au chapitre 6 de Luc, au verset 12, rendu sur une montagne pour y prier Dieu, et même qu'il a passé toute la nuit à prier. Puis au verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 après vous. Donc, d'après ce texte, les noms sont donnés. C'est Jésus qui a introduit, au fond, ce titre d'apôtre, qui veut dire littéralement dévoyé, mais c'est lui qui les a choisis. Saul de Tarse, ou Paul, Saul de Tarse qui serait devenu Paul. Non. On ne trouve pas le nom de ce Saul dans cette liste. Mais en revanche, on y trouvera le nom de qui? De Judas. Celui-ci. « Les apôtres, ce sont des hommes qui avaient été choisis par Jésus lorsqu'il était sur la terre pour devenir ses témoins. Nous avons tout cela dans le livre des Actes, quand l'apôtre Pierre est... sa raison d'être et pourquoi il prêche après la Pentecôte. Mais voilà que nous avons ici un homme qui s'appelle Paul et qui s'appelle apôtre de Jésus-Christ, donc envoyé de Jésus-Christ. Mais par quel moment? Il affirme que c'est par la volonté de Dieu. Et donc la volonté de Dieu, est-ce qu'elle s'est exprimée seulement quand Jésus était sur la terre? Seulement dans le choix que Jésus a fait de Dieu? La famille? Non. Si nous lisons le livre des Actes, nous voyons qu'un homme qui était rebelle contre les premiers croyants a été saisi, bouleversé, alors que... trajet du nom de Dieu, et vous savez qu'il se convertit sur ce chemin de Damas. Et s'il se laissait conduire sur vous, résister à quoi? Que lui serait donné la volonté de Dieu. Et soyons-nous sûrs, s'il est apôtre, c'est par la volonté de Dieu. Nous aurons l'occasion de vérifier si c'est vraiment par la volonté de Dieu que Paul puisque nous verrons que ce titre
et tout contestée. Donc Dieu a une volonté, et il la manifeste. Puis maintenant, vous avez le frère Timothée. Qui est le frère Timothée? C'est le frère de Timothée. Le frère Timothée, vous avez son histoire dans le chapitre 16 du livre des Actes. Et vous apprenez que c'était un jeune homme qui semble avoir été converti lors de la première venue de Paul. L'apôtre Paul avait fait un miracle et avait annoncé l'évangile. Et plus tard, revenant dans cette ville, Paul a remarqué ce jeune homme qui avait fait profession de foi. Un grand maire aussi, bien versé dans les Écritures, et Paul l'a choisi pour être avec lui et le former le ministre. Même quand Paul écrivait, il s'associait déjà, dans la lettre qu'il écrivait, un jeune frère. Il met Timothée comme étant de cette lettre. Donc, c'est un jeune qui partage les sentiments de l'apôtre Paul, et si nous lisons les épîtres, nous voyons que certaines tâches avaient déjà été confiées à Timothée. Maintenant, à qui s'adresse-t-il? À l'Église. Qu'est-ce que vous remarquez? L'Église est de qui? Elle est de Dieu. À qui appartient le nom de l'Église? À quel groupe appartenez-vous d'abord? À Jésus, il y a l'Église de Dieu. Et cette Église de Dieu, à Corinth. Où est l'Église de Dieu à Montréal? C'est quoi l'Église de Dieu à Montréal? La Sherbrooke. C'était la capitale de cette partie de la Grèce qu'on nommait l'Achaïe. Alors, Paul n'écrit pas souvent à ceux qui sont les privilégiés dans la ville, qui sont dans le centre, mais il écrit aussi. Dans toute la province, voilà ce qui forme l'Église de Dieu. À cette Église est ajouté donc tous les saints qui... des gens qui ont été canonisés, est-ce qu'ils veulent être canonisés, qu'il écrit? Qu'est-ce que c'est qu'un saint? C'est un homme qui a été mis à terre.
C'est un Jésus qu'on met à toutes les sauces. C'est un Jésus facile. C'est un Jésus qui sauve. C'est un Jésus qui nous lance peut-être dans toute espèce d'activité, soi-disant pour lui. Mais ce n'est pas le vrai Jésus qui nous fait entrer dans la connaissance du Père et dans la communion de ces souffrances que nous pouvons traverser par la puissance de sa résurrection. Une prédication qui vient vraiment de Dieu. Aujourd'hui, c'est une prédication trinitaire. C'est une prédication où vous ne séparez jamais le Père du Fils et du Saint-Esprit. On peut distinguer les trois personnes, mais on ne doit jamais les séparer. Le Père qui envoie le Fils qui nous révèle le Père, et le Saint-Esprit qui vient en nous réaliser l'œuvre du Père et du Fils. Seigneur, que dans ta bonté, tu nous donnes aujourd'hui de savoir discerner quelle prédication de Jésus nous pouvons recevoir et écouter, et que nous devenions les uns et les autres les enfants du Père, ceux qui sont marqués par le Père, du sceau du Saint-Esprit qui agit en nous pour mettre notre chair dans la mort et pour manifester non pas une sagesse charnelle ou des dons charnels, mais pour manifester les dons surnaturels de ton esprit. Ô Dieu, que dans ta grâce, nous puissions découvrir que la présence réelle de ton esprit en nous est de nous humilier toutes choses pour nous faire regarder à celui qui seul est notre vie et veut manifester en nous la gloire, l'honneur et la puissance de son Père.